Radio Okapi.
Noëlla Luzitu Kabambi à la présentation. Dégradation du système éducatif dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, la ministre de tutelle exprime son angoisse. Au moins 2600 écoles fermées et plus d'un million d'enfants sortis du circuit scolaire déplore Raissa Malou en cette période de guerre. La ministre s'est exprimée hier à Kinshasa lors du briefing de presse. Au moins 9 miliciens ont été tués et plusieurs autres blessés dans la nuit de lundi à mardi dans de violents combats entre deux factions rivales d'un même groupe de Wazalendo dans la commune de Kimemi, ville de Butembo, au nord Kivu. Ils se disputent le contrôle de la région. Notre invité, le colonel Makazukai, porte-parole des opérations Sokola 1 dans le Grand Nord, Nord Kivu. Il va aborder les problèmes de discipline au sein de l'armée. Il va aussi souligner l'importance des audiences foraines tenues récemment au Nord Kivu, ainsi que leur visée. Bonjour à tous. Inquiétude de la ministre d'État en charge de l'éducation nationale à propos de la dégradation du système éducatif dans le Nord Kivu et le Sud Kivu à la suite de la guerre d'agression. Raissa Malou a rapporté cette information hier lors du briefing de presse co-animé avec son collègue de la communication et médias Patrick Mouyaya ici à Kinshasa. Elle a en outre déploré la fermeture d'au moins 2594 écoles et la sortie de plus d'un million d'enfants du circuit scolaire en cette période trouble dans ces provinces sous occupation du 1-23. Les propos de Raissa Malou sont recueillis par Blaise Shindani Kambala.
Nous avons plus de 2500 écoles qui sont affectées par cette guerre dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, avec 1,4 million d'élèves qui sont affectés par cette situation. Il faut savoir qu'on a des écoles qui ont été détruites suite au bombardement. On a des centaines d'écoles qui sont occupées par les groupes armés dans le Nord et le Sud Kivu. On a les écoles qui sont occupées par les populations déplacées. Et donc, et on a aussi eu à déplorer une école qui aurait servi de cimetière. Et on a des écoles pour lesquelles les tableaux ont été détruits, les bancs ont été également détruits servant de bois de chauffe, les portes des latrines, etc. Et donc ici, vous comprenez que cette situation de guerre met à mal le travail qui a été réalisé ces dernières années pour améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage. C'est extrêmement dur de voir une école détruite, sachant tous les efforts que l'on met pour pouvoir en construire une.
Dans sa réponse à la presse, la ministre de l'Éducation nationale a par ailleurs assuré avoir pris des dispositions pour le respect du calendrier scolaire, même dans les provinces éducationnelles sous occupation. Près de 80 000 hommes, femmes et enfants de la RDC ont fui vers les pays voisins à la suite de la guerre d'agression, dont environ 61 000 sont arrivés depuis janvier dernier au Burundi. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric de la Rivière, a livré ses statistiques hier lors d'un briefing organisé à New York aux États-Unis d'Amérique. Plus de détails avec vous, Blaise Ndongala Mayanda.
Selon Stéphane Dujarric, autour de Goma, environ 17 000 personnes restent dans des sites de déplacement, des écoles, des églises, tandis que 440 000 autres se déplacent depuis 4 semaines en vue de retourner dans leur village d'origine. Il a cependant précisé que le retour de ces personnes a été obligé par les rebelles du M23 qui contrôlent désormais cette contrée. Au moins 209 personnes déplacées sont arrivées spontanément dans les territoires de Masisi, Nirangongo et Rutshuru, où les services de base ne sont pas équipés pour faire face à cet afflux soudain des populations, a fait remarquer Stéphane Dujarric. Compte tenu de l'insécurité généralisée dans les Nord et Sud Kivu, ces hauts fonctionnaires des Nations Unies a rappelé que de nombreuses autres personnes pourraient devoir franchir les frontières pour trouver protection et assistance. Pour sa part, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés appelle les États à enregistrer tous les demandeurs d'asile en provenance de la RDC et à leur fournir des documents.
La crise dans l'est de la RDC nécessite une solution politique et non militaire. Déclaration ce mercredi à Kinshasa de Johan Borgstam, représentant spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs, qui vient de terminer une tournée dans la région. Justement, au cours de sa mission, il a rencontré à Kigali le président rwandais Paul Kagame, avant de rencontrer le président Félix Tshisekedi ici à Kinshasa. Il dit avoir exhorté les deux chefs d'État à se concentrer sur le bien-être de leur peuple, en privilégiant le dialogue pour résoudre le différend qui oppose les deux nations. Il a rappelé l'opposition de l'Union européenne au soutien militaire du Rwanda aux rebelles du M23. Johan Borgstam est au micro de Ronelyne Tibonera.
Le Rwanda et la République démocratique de Congo sont condamnés dans un sens à travailler pour établir un terrain d'entente. C'est une responsabilité des deux gouvernements envers les deux peuples, le peuple congolais et le peuple rwandais. Je dirais que par rapport aux processus régionaux en cours, comme vous savez, peut-être l'Union européenne soutient fortement les processus régionaux. Donc nous, on prend toujours ce qu'on appelle des solutions africaines pour les problèmes africains. J'aimerais quand même ajouter l'importance pour les organisations régionales d'éviter confusion par rapport à l'encadrement de ces négociations.
S'agissant de la situation sécuritaire dans la ville de Bukavu, notez que l'avenue Pageko au quartier Ndendere dans la commune d'Ibanda a été la cible la nuit dernière de plusieurs attaques par des hommes armés. Bilan, 3 morts, plusieurs maisons cambriolées et de l'argent volé. Des éléments du M23 qui contrôlent la ville sont intervenus et ont réussi à chasser les présumés bandits. Des témoins sur place renseignent que c'est lors de l'intervention que les 3 personnes ont succombé. Ce matin, la Croix-Rouge a été mise à contribution pour évacuer les corps des victimes. La Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale a procédé depuis la semaine dernière à des auditions des membres du gouvernement sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. 5 membres du gouvernement ont été entendus. Il s'agit notamment des vice-premiers ministres et ministres de la Défense, de l'Intérieur, de la ministre d'État chargée des Affaires étrangères, ainsi que des ministres des Finances et du Budget. Au cours de l'audition, hier mardi, Jacquemain Chabani, de l'Intérieur et Sécurité, a rencontré toutes les préoccupations des députés, souligne le président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, Rubens Mikindo, est au micro de Michel Kifindangwe.
C'était une occasion pour nous de poser des questions aux différents ministres. Qu'est-ce qui s'est passé, surtout lors des derniers affrontements au niveau de Goma? Goma est passé sous le contrôle du Rwanda aujourd'hui. Nous avons aussi la chute de la grande ville de Bukavu. Et tout ça, on voulait comprendre. Et aussi, si nous avons invité la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, c'est pour comprendre un peu comment les choses évoluent. Bien qu'aujourd'hui, tout le monde estime qu'il faut jeter des fleurs au ministre des Affaires étrangères. Le ministre du Budget, ministre des Finances aussi, c'était pour comprendre toute la chaîne de dépenses. C'était vraiment l'occasion pour poser des questions. Et puis c'était le tour des ministres de commencer à répondre aux questions des députés. Aujourd'hui, c'est le tour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Maintenant, il reste les deux ministres, le ministre du Budget et le ministre des Finances, qui vont finalement répondre aux questions des députés. Je crois que dans les 48 ou 72 heures, ça sera chose faite. Et au finish, ces rapports, nous allons les présenter à notre bureau. On va étoffer aussi des recommandations de notre commission. Ça sera à notre bureau, au niveau de l'Assemblée, de pouvoir décider sur la suite.
Au moins 9 personnes, toutes des miliciens, ont été tuées et plusieurs autres sont blessées dans de violents combats qui ont éclaté dans la nuit de lundi à hier mardi dans la ville de Butembo, au nord Kivu. Il s'agit des affrontements entre deux factions rivales d'un même groupe de Wazalendo pour le contrôle de la région au niveau du mont Tabora, dans la commune de Kimemi. Ce mercredi matin, un calme précaire a régné sur place, selon la société civile locale. André Kitenge nous fait le point.
Les combats entre deux factions des mêmes groupes armés de Wazalendo ont duré environ 2 heures sur le mont Tabora de la commune de Kimemi, en pleine ville de Butembo. Des affrontements à l'arme légère et lourde ont provoqué une panique dans la ville et le déplacement de certains habitants vers des endroits jugés plus sécurisés. Selon des sources locales et sécuritaires, le bilan de ces affrontements fait état de 9 miliciens tués. La vraie version de ces affrontements à répétition dans la région entre ces Wazalendo n'est toujours pas encore connue. Les mêmes sources renseignent que ces miliciens se disputent souvent le contrôle des barrières sur le tronçon routier entre Vutatimbwa et Malende. Les mêmes sources ajoutent qu'un autre point de friction entre ces milices est aussi la dispute autour de l'appartenance de la colline de Mavina à un chef de la milice contesté. Contacté, le colonel Makazukai, le porte-parole des opérations Sokola Ingrat Nord, appelle ses combattants à rejoindre leurs compagnons sur les différentes lignes de front contre les rebelles du M23 et des ADF. Selon lui, ceux qui ne vont pas obtempérer seront traqués au même titre que les ADF et M23.
Au Kasaï oriental, plus de 200 ménages, dont 100 ménages des retournés de l'Angola, ainsi que des déplacés internes installés au site de convergence de Bena-Kasampuila dans le territoire de Kilenge, accèdent désormais à l'eau potable. Le gouverneur de province a inauguré hier un forage de puits d'eau creusé par l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement avec le financement du HCR au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Explication avec Esther Ndalafina.
C'est un ouf de soulagement pour les femmes ménagères qui se rendent à plus de 5 km chaque jour pour puiser l'eau brute dans un ruisseau. Marthe Ilunga, retournée de l'Angola, affirme que ce forage est une solution au problème de violence basée sur le genre dans cette localité.
Aujourd'hui, on sommes très heureuses. On n'a plus peur des viols, des violences. On est très contente de cette eau qu'on nous a donnée.
Ingénieur Aden Moussavoulé de ADES explique ici le fonctionnement de ce forage.
Ce forage a un puits profond de 120 mètres, nous dessert de l'eau à un débit de 3 mètres cubes l'heure qui alimente un stockage de 10 mètres cubes et c'est là qui dessert sur 4 robinets de 2 bornes fontaines.
Ce forage a été construit avec le financement de UNHCR. Son chef de bureau dans le Grand Kasaï, Dr Jean-Jacques Ngondo, affirme que ce geste va au-delà du mandat de HCR.
Nous avons aussi, après évaluation des besoins, trouvé que la question de l'eau, qui normalement ne devrait pas être dans le cadre du rapatriement parce que la question de l'accès à l'eau est une question vraiment vitale.
Signalons que les retournés de l'Angola et les déplacés internes de Kamwina-Sampou installés à Kasampuila ont aussi bénéficié des abris construits sous la supervision de ADSS, partenaire du HCR. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
À Kalemie, l'Organisation internationale pour les migrations a remis officiellement hier à la police des infrastructures modernes. Il s'agit d'un commissariat de référence, de 4 sous-commissariats, de quelques jeeps Land Cruiser, des motos et des matériels de bureau. Paula Munanga.
Ces projets visent l'amélioration des conditions de travail de la police, la promotion de la gouvernance sécuritaire inclusive après le départ de la MONUSCO dans la province du Tanganyika. Ils sont financés conjointement par les gouvernements du Japon à travers l'Agence de coopération internationale et les fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Concernant les 4 sous-commissariats de la police, ils ont été construits dans la ville de Kalemie, dans les territoires de Kalemie, Nyunzu et Kongolo. Dans le cadre de la professionnalisation de la police de proximité, 120 élèves viennent d'achever une formation de 6 mois. Ils ont suivi des cours sur des matières liées aux droits humains visant à rendre la police nationale plus professionnelle et respectueuse des droits de l'homme. Pour rappel, cette promotion de la police de proximité est la toute première dans la province du Tanganyika. La société civile et les membres du comité local de sécurité plaident pour la continuité de la formation de la police afin d'améliorer davantage la sécurité des personnes et de leurs biens dans la province du Tanganyika.
Actualité internationale. Israël utilise la famine comme une arme de guerre à Gaza en bloquant depuis dimanche l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne, a dénoncé ce mercredi l'Afrique du Sud dans un communiqué de son ministère des Affaires étrangères. En empêchant l'entrée de nourriture à Gaza, Israël continue à utiliser la famine comme arme de guerre, accuse Pretoria à l'origine d'une plainte pour génocide visant Israël devant la Cour internationale de justice.
L'invité.
L'invité de ce journal, c'est le colonel Makazukai, porte-parole des opérations Sokola 1 dans le Grand Nord, Kivu. Il aborde les problèmes de discipline au sein de l'armée et souligne l'importance des audiences foraines tenues récemment à Moussienene, dans la région de Butembo et à Lubero, au Nord Kivu. Selon lui, ces audiences devraient servir d'exemple à certains militaires qui, au lieu de défendre la patrie, sèment la terreur parmi la population. Le colonel Makazukai assure que même ceux qui ont fui au-delà de la province du Nord Kivu seront recherchés pour répondre de leurs actes. Le colonel Makazukai s'entretient avec Guylaine Kassassia.
Colonel Makazukai, bonjour.
Bonjour.
Les comportements de certains soldats des FARDC inquiètent malgré la tenue des audiences pour juger ceux qui ont commis des viols, violences et pillages. La situation ne change pas dans plusieurs cités de Lubero comme Luotu, Masereka et ailleurs. Comment expliquez-vous cette indiscipline de certains éléments qui, au lieu de sécuriser les populations, sèment terreur et désolation?
Madame, je ne saurais vous expliquer le comportement ou le manque d'éducation dont certains militaires ont fait montre durant ce temps. Il est vrai que ces jeunes gens ont fait la honte de l'armée. Ils ont enlevé l'essentiel de la profession, l'âme de l'armée. Ils ont violé le règlement qui régisse l'armée. L'armée, c'est la discipline. Lorsqu'il n'y a pas de discipline, je ne sais pas comment on peut parler d'une armée. Heureusement que ce sont des brebis galeuses. Nous saisissons l'occasion pour présenter nos excuses aux victimes et à la population tout entière qui a été traumatisée par le comportement de certains militaires que nous avons déférés devant la justice. Ces audiences ne sont qu'au début parce qu'ils sont nombreux. Hier, c'était une soixantaine à être jugés, 55 condamnés à mort, mais ils sont encore nombreux à vagabonder, si vous me permettez de dire ça, dans la ville, dans certaines localités. J'ai ouï dire qu'il y a un an qui ont déjà atteint Kisangani. Mais la machine judiciaire est déjà activée pour traquer tous ces gens-là. Et ils vont répondre de leurs actes.
Comme vous parlez des audiences, visiblement, ces dernières, censées servir d'exemple à la troupe, semblent ne pas suffire, ni avoir d'effet dissuasif sur certains militaires. L'armée et les militaires seraient-ils devenus incontrôlables, car ces actes d'indiscipline et de violence sont enregistrés dans de nombreuses localités du Grand Nord-Kivu?
Moi, je pense que on ne doit pas généraliser ce qui vient de se passer. Vous dites que les audiences ne vont pas résoudre le problème, mais c'est un processus. On vient de prononcer les sentences. Voyons comment on va exécuter ça. Et la suite, ça va venir. Mais ce qui est très important pour nous, c'est qu'au moins, ces brebis galeuses seront mises à côté.
Et alors, dans le même cadre avec ce type de comportement de certains de vos soldats, ne craignez-vous pas que la population perde confiance à son armée, alors que vous ne cessez de demander à cette même population de faire confiance au FARDC, de collaborer avec elle pour lutter contre les groupes armés locaux et étrangers?
C'est vrai que nous-mêmes ne sommes pas contents de ce qui vient de se produire, mais cela ne peut pas nous décourager. Il y a encore des militaires éduqués, instruits, qui tiennent le front. C'est vrai que le mariage est affecté. Nous allons faire un effort pour essayer de coller les morceaux. Le patriotisme, c'est aussi ça. Je terminerai par vous dire, madame, que faut envoyer des enfants bien éduqués dans l'armée. L'armée n'est pas une poubelle. Moi, je pense qu'un enfant qui est bien éduqué chez lui ne peut pas venir commencer à casser des portes et prendre de la peine des gens, voler les poules des gens. Ils mangeaient, ils ont à manger, ils ont des médicaments, nous ne savons pas pourquoi ils ont posé ces actes-là. Si ce n'est pas un problème d'éducation de base.
Colonel Makazukai, dans une ville comme Beni, de plus en plus de faits militaires sont découverts par les habitants. Les armes circulent librement. Certains militaires qui ont fui les lignes de France retournent contre la population dans d'autres localités. Que fait l'armée pour récupérer ces soldats fuyards et empêcher les violences contre la population?
Je crois qu'il y a une commission qui est mise en place pour traquer tous les fuyards. J'invite la population à coopérer avec la police militaire et les instances judiciaires de l'armée. Pour les gens qui sont en train d'abandonner les tenues, les armes à gauche et à droite, et que la population nous aide à les amener auprès des autorités militaires pour qu'on puisse les remettre à l'armée.
Colonel Makazukai, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Un journal présenté par Noëlla Luzito Kabambi et mis en nom de Paradieu Donné Nyangasa. Le tout sous la coordination de Élisée Chikota Chivueta.